Avant de commencer, j'aimerais prier avec vous. Prions. Ô notre Dieu et notre Père, quel privilège en effet de pouvoir se retrouver ensemble sous ton saint regard. C'est vraiment dans l'humilité que nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, sachant que tu es le Dieu de l'univers et que nous ne sommes que des hommes. C'est vraiment dans l'humiliation que nous voulons nous approcher du trône de la grâce, sachant que nous écoutons non pas en vertu de ce que nous avons, fait pour toi, mais de ce que tu as fait pour nous, dans la personne de Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité, qui est monté au ciel, qui est aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur. C'est lui que nous voulons honorer, et nous prions qu'au travers de la prédication de ta parole, ce soit le cas. Alors par l'action de Saint-Esprit, nous t'en supplions, que ce soit le cas. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons une petite série dans les trois premiers chapitres de la Genèse. Vous vous rappelez, Genèse 1, il y a quelques semaines, nous avons vu le Dieu qui crée. Aujourd'hui, je vous propose de voir le Dieu qui donne. Genèse chapitre 2, versets 4 à 25. Mais avant de lire le texte, imaginez. Imaginez, un jour, vous recevez une enveloppe dans votre boîte aux lettres. Dans cette enveloppe, non pas un chèque astronomique, mais un billet d'avion gratuit pour une destination inconnue. Pas mal, non? Vous allez à l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry. Une hôtesse de l'air vous accueille et vous invite à monter dans un avion qui décolle. Sous vos pieds, la ville de Lyon. Vous apercevez le Rhône et la Saône qui serpentent à travers la ville et dont les eaux scintillent sous les rayons merveilleux du soleil. Vous faites cap à l'est. L'immensité des Alpes s'offre devant vous. Vous êtes subjugué par la majesté de ces sommets enneigés. Vous faites cap au sud. À l'horizon, vous apercevez la mer Méditerranée, dont le bleu azur vous éblouit. Vous n'avez pas fini de contempler ce paysage absolument magnifique, somptueux, que l'avion entame sa descente pour finalement atterrir dans une propriété absolument magnifique. Vous êtes accueilli dans cette propriété par le propriétaire des lieux en question, qui vous loge, qui vous nourrit, qui prend soin de vous, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Bref, vous ne manquez de rien. Si vous étiez là il y a quelques semaines, ce voyage en avion, c'est en fait celui que nous avons fait il y a quelques semaines, donc, en survolant le premier chapitre de la Genèse. Vous vous rappelez? Un chapitre qui présente le Dieu de la Bible, un Dieu à l'origine d'une création absolument majestueuse, un Dieu qui a tout créé par sa parole. Dieu dit, et il en fut ainsi. Vous vous rappelez ce refrain qui vient ponctuer le passage à 10 reprises, un Dieu qui a fait de l'homme l'apogée de sa création, et un Dieu qui a fait du repos son but. Et si Genèse 1 est le voyage en avion, eh bien le texte que nous allons voir aujourd'hui, Genèse 2, est en fait l'accueil qui nous est réservé dans la création. Il me semble que le but de ce chapitre que nous allons lire ensemble est de révéler la grâce, c'est-à-dire la faveur imméritée de Dieu, grâce surabondante, qui donne à l'homme qui ne peut pas se donner lui-même. Vous allez m'entendre dire cette phrase à plusieurs reprises, « Dieu donne à l'homme ce qu'il ne peut pas se donner lui-même. » J'aimerais voir trois choses assez simples avec vous, et je précise que le plan de ce message est à l'intérieur de vos bulletins que Jonas a gentiment préparé pour nous. Premièrement, j'aimerais voir que Dieu va donner à l'homme la vie, des versets 4 à 7. Ensuite, il y a une petite erreur, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur en envoyant le plan à Jonas, je m'en excuse. Dans un deuxième temps, nous verrons que Dieu donne à l'homme un cadre de vie, des versets 8 à 17. Dans un troisième et dans un dernier temps, nous verrons que Dieu donne à l'homme un vis-à-vis. D'accord? Donc il s'agit d'intervertir simplement les deux dernières parties. Mais premièrement donc, Genèse chapitre 2, des versets 4 à 7, Dieu donne à l'homme la vie. Et je vous propose de lire ensemble ces versets. Genèse chapitre 2, versets 4 à 7. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Premièrement donc, Dieu donne à l'homme la vie. Le récit qui commence au chapitre 4 raconte la création d'une autre manière. C'est un peu, si vous voulez, la création revisitée sous une autre perspective que celle du chapitre 1. Une création où la terre est disponible, mais où, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas encore de végétation. Regardez le verset 5. Aucun arbuste et aucune herbe. Car il manque deux choses fondamentales. Est-ce que vous avez vu ces deux choses qui manquent? Premièrement, de la pluie. C'est assez utile dans la vie, surtout pour les agriculteurs. Deuxièmement, des hommes, tout simplement, pour cultiver cette terre. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, le Dieu créateur va pourvoir aux besoins de sa création. Il va contribuer à l'arrosage de toute la surface du sol. Grâce à une vapeur, le mot dans le texte original est difficilement traduisible. On parle de vapeur, on parle parfois de flot, tout dépend de la traduction que vous avez au verset 6. Il va façonner l'homme à partir de la poussière du sol. Verset 7, un peu comme un potier façonne l'argile. Si vous avez vu un potier façonner de l'argile, vous voyez ce à quoi je fais référence. Mais Dieu ne va pas faire de l'homme un simple tas de poussière. D'accord ? 71% d'eau apparemment, quelques pourcentages d'azote, quelques pourcentages de magnésium, quelques pourcentages de potassium. Je n'ai pas encore bien révisé mes cours de bio. Il va faire de lui un être vivant, un être à part. On l'avait vu distinct des animaux. En insufflant dans ses narines un souffle vital, selon vos versions, un souffle de vie. Un peu comme un maître nageur va insuffler de l'air dans les poumons d'une personne qui s'est noyée au bord de la mer. Un peu comme dans Alerte à Malibu. Est-ce que vous vous rappelez de Alerte à Malibu? Avec David Hasselhoff. Voilà. Alors, c'est l'histoire de maître nageur qui officie au bord de la plage et qui contribue à sauver des vies, notamment. Enfin, il se passe beaucoup d'à côté dans Alerte à Malibu aussi, mais c'est ça leur job, d'accord? De sauver la vie des gens. C'est un peu ça qui se passe dans ce premier, dans cette première partie. Dieu donne à l'homme ce que l'homme ne peut pas se donner lui-même, la vie. Autrement dit, chaque bouffée d'air que nous respirons en ce moment, chaque battement de notre cœur, chaque moment, chaque jour de notre vie, le temps de l'histoire dans lequel nous vivons, tout ça est un don, un cadeau que Dieu fait à l'homme, que l'homme ne peut pas se faire à lui-même, que Dieu seul peut faire en tant que créateur. Est-ce que vous recevez la vie comme un don? Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que je reconnais humblement que mon existence et ma subsistance dépendent de manière ultime de mon créateur? Est-ce que vous vivez, est-ce que je vis dans la gratitude, est-ce que je dépends de lui? Est-ce que je prends le temps, indépendamment des circonstances, de le remercier tous les jours, tout simplement pour le simple fait d'être en vie? Est-ce notre attitude quotidienne? Dieu donne à l'homme la vie. Mais il donne aussi à l'homme un cadre de vie. Et c'est ce que j'aimerais voir dans un second temps avec vous. Deuxièmement, Dieu donne à l'homme un cadre de vie des versets 8 à 17, que je vous invite à lire avec moi. Genèse chapitre 2, des versets 8 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un arbre en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que l'édurgue et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans cette deuxième partie, Dieu donne à l'homme un cadre de vie idéal, pour ne pas dire idyllique. Le parc de la Tête d'Or à Lyon. Un jardin extraordinaire pour les gens de ma génération, Charles Trenet, un jardin extraordinaire. Vous connaissez, j'espère. Le jardin d'Éden. Éden en hébreu signifiant plaisir ou délice. Un lieu en tout cas où toutes les conditions sont réunies pour que l'homme ne manque absolument de rien dans sa grâce surabondante. Encore une fois, Dieu donne à l'homme ce qu'il ne peut pas se donner lui-même. Et tout ce dont il a besoin pour vivre. Regardez le verset 16. Des arbres à la fois beaux à voir et bons à manger. C'est aussi le verset 9, pardon. Dont il peut se nourrir à satiété. C'est ce qu'il dit au verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Un fleuve qui se divise en quatre bras pour arroser, irriguer le jardin. C'est au verset 10, hein, vous l'avez vu. Et qui révèle mais la bonté de Dieu, l'extraordinaire bonté de Dieu, qui pourvoit généreusement à l'eau dont la terre a besoin pour être fertile et utile à l'homme. Verset 15, un travail épanouissant, une vocation, un véritable privilège qui va consister à cultiver et à garder ce jardin extraordinaire. Et puis verset 16 et 17, un commandement, une loi. Certains parlent d'un pacte d'alliance. Avec une double clause. Vous l'avez vu cette double clause au verset 16 et 17 ? Je vous propose de relire ensemble. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, une permission. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Une interdiction, un commandement avec une double clause. Une permission dans un premier temps et une interdiction. Alors, c'est peut-être ce que vos amis non-croyants vous disent, ou si vous vous posez des questions sur la foi chrétienne, c'est peut-être ce que vous vous êtes dit avant de lire la Bible, c'est que ce commandement peut donner l'impression, finalement, d'être une terrible restriction de liberté, vous ne trouvez pas ? Quand même, Dieu. Quel castrateur de liberté, ce Dieu ! En fait, je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que ce commandement, ce pacte d'alliance, offre à l'homme une liberté que je qualifierais de royale. On pourrait très bien traduire que Dieu dit à l'homme, tu es libre de manger de tous les arbres du jardin. Je te donne cette permission. Tu es libre de goûter de tous les arbres, de tous les fruits, des fraises, des bananes, des framboises. Pas de concombre, de toute façon on s'en fiche, c'est pas un fruit. Profites-en. Tu es libre, tu as la permission de manger de tous les arbres du jardin. C'est un ordre dans l'original, littéralement, en hébreu, mange, tu mangeras. C'est-à-dire, c'est un ordre, mange, tu mangeras. Vas-y, c'est fait pour ça. C'est presque un ordre. Mais il y a une deuxième clause au verset 17, une interdiction. Et Dieu dit, ne mange pas. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Entre parenthèses, je pense que cet arbre de la connaissance du bien et du mal est en fait un symbole de l'autonomie morale, du choix pseudo-souverain qui consiste à décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu a dit, voilà ce qui est bien et ce qui est mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il me semble que ça représente l'homme qui décide dans sa souveraineté, si j'ose dire, c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu dit, ne fais pas ça, car le jour où tu en mangeras, c'est-à-dire le jour où tu décideras de déclarer ton indépendance morale vis-à-vis de moi, le jour où tu décideras que c'est toi qui décides ce qui est bien, ce qui est mal, eh bien, mourir, tu mourras. De la même manière que, dans un premier temps, il dit, manger, tu mangeras, et bien dans le second temps, il dit, oui, aussi certain que cela est vrai, aussi certain, mourir, tu mourras. Voyez comment cette seconde clause de ce commandement, loin de restreindre la liberté de l'homme, lui offre en réalité une liberté tout aussi royale que la première. Ce n'est ni un piège, ni un piège. ni une tentation, mais un signe de l'amour de Dieu, qui fixe à l'homme une limite dont le but est de garantir non seulement sa propre liberté, mais aussi son bonheur. J'ai le privilège d'être père depuis bientôt 18 mois, il meurt 18 mois le 8 décembre, non, le 8 juin, c'est-à-dire dans 3 jours, si mes comptes sont bons. Et j'ai dû lui interdire, et si vous êtes parent, j'imagine que vous êtes dans la même situation que moi, j'ai dû lui interdire de faire une dizaine de choses dans la maison depuis qu'elle est née. Emma, ne touche pas les prises électriques. Emma, ne mets pas tes doigts dans la porte. Emma, ne touche pas le four quand il est chaud. Ces interdictions ont-elles pour but de restreindre la liberté et le bonheur de ma fille ? Sur certaines plages en Australie, si vous allez en Australie, vous allez peut-être voir ça, des panneaux interdisent la baignade. Et la pratique du surf en raison de la présence de requins. Mais ces interdictions ont-elles pour but, pour vocation, de restreindre la liberté et le bonheur des surfeurs et des touristes ? Question rhétorique. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce poisson qui aspire à une plus grande liberté et qui décide un jour, dans sa souveraineté, de sortir en sautant hors de son bocal. Vous connaissez l'histoire de ce poisson ? Elle est très courte parce qu'il n'a pas vécu bien longtemps, vous savez. Il est complètement illusoire, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est complètement illusoire, voire suicidaire, de penser que la liberté consiste à faire ce que je veux, quand je veux. Et à transgresser les limites, la liberté consiste au contraire à accepter et à respecter les limites que Dieu a fixées, le cadre de vie qu'il a donné à l'homme, notamment défini par sa loi. Cette loi nous ordonne manger, tu mangeras. Cette loi nous ordonne de profiter pleinement de toutes les bonnes choses que Dieu a données, des petits plaisirs de la vie, des joies très très simples de l'existence, même dans un monde déchu, où la grâce commune de Dieu est à l'œuvre. Un pique-nique au parc de la Tête d'Or, c'est agréable en juin, surtout quand il fait beau. Une balade en amoureux au bord du Rhône ou de la Somme, c'est pas désagréable, non ? Profitons-en. Une journée à la montagne ou à la mer, ça peut faire du bien. Un bon moment entre amis, tout simplement. Un bon film, un bon livre, une belle musique, la finale de Roland-Garros qui est en train de se jouer en même temps, vous allez peut-être gagner. De la même manière, cette loi nous ordonne d'accepter et de respecter humblement les limites que Dieu a fixées pour notre bien. Vous voyez le cadre de vie qu'il a défini. Non seulement pour garantir notre liberté, mais aussi notre bonheur. Dans sa grâce surabondante, Dieu a donné à l'homme ce qu'il ne peut pas se donner lui-même. La vie, premièrement, un cadre de vie, notamment défini par une loi libératrice et protectrice. Alors jusqu'ici, pour l'instant, tout va bien. En anglais, so far, so good. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. L'homme a absolument tout pour être heureux. Il ne manque strictement de rien. Il a tout pour être heureux. Tout ? Ça fait une chose. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la troisième et la dernière partie. Des versets 18 à 25. Premièrement, Dieu donne à l'homme la vie. Deuxièmement, Dieu donne à l'homme un cadre de vie. Troisièmement et dernièrement, Dieu donne à l'homme un vis-à-vis. Des versets 18 à 25, la fin du chapitre en fait. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fut tombé un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été apprise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu donne à l'homme un vis-à-vis. Vous vous rappelez dans le premier chapitre, comment est-ce que Dieu qualifie sa création au fur et à mesure du récit? Dieu dit, il en fut ainsi, et Dieu dit, cela est bon. Il conclut en disant, cela est très, très bon. Dans cette création, donc qualifiée de bonne à 7 reprises, 7 est un chiffre encore symbolique, hein, on l'avait vu au chapitre 1, il y a une chose qui n'est pas bonne dans ce chapitre. Est-ce que vous l'avez lu? Facile, on l'a lu. Le verset 10. La création souffre d'une absence. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La création souffre d'une absence, celle de la femme. L'homme a besoin d'une aide, d'un vis-à-vis. Dieu va donc faire venir les animaux et les oiseaux vers lui pour que l'homme puisse les nommer et en profiter pour trouver chaussure à son pied. Mais sa recherche ne mène à rien. C'est la fin du verset 20 qui le dit. Vous avez vu? Dieu plonge alors l'homme dans un profond sommeil et forme une femme à partir de l'une de ses côtes. Et ce cadeau de la part de Dieu, ce don que l'homme ne peut pas se faire à lui-même, fait exulter, jubiler l'homme. Il lui inspire une louange véritablement poétique, hein, au verset 23. C'est exactement ce dont il avait besoin. C'est exactement ce dont il avait besoin. Il a trouvé chaussure à son pied. C'est ce qu'il ne pouvait pas se donner lui-même. Cette création de la femme à partir de l'une des côtes de l'âme a fait dire ceci à Matthew Henry. Je ne sais pas si vous connaissez Matthew Henry, c'est un commentateur, aussi pasteur, hein, à ses heures perdues, britannique, du XVIIe siècle, qui a fait une série de commentaires très, très intéressants. Je vais relater l'anecdote de Matthew Henry la dernière fois. Il s'était fait voler et puis il avait remercié Dieu en fait pour s'être fait voler parce que finalement... on ne lui avait pas pris sa vie parce que finalement on aurait pu lui prendre beaucoup plus d'argent parce que finalement il n'avait pas beaucoup souffert. Et voici ce qu'il dit sur ce verset, c'est très très beau. Si vous voulez prendre des notes, allez-y, sinon je peux vous l'envoyer par email. J'ai mis ça sur mon statut Facebook un jour et ça a éveillé l'attention de plusieurs personnes. Voici ce que dit Matthew Henry. Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds, pour qu'il la piétine, mais de son côté, pour qu'elle soit son égale. Sous son bras, pour qu'il la protège. Et près de son cœur, pour qu'il la chérisse. C'est pas beau? C'est magnifique. C'est magnifique. En tant que créature faite à l'image de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 27, hein, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. En triple emploi du verbe bara en hébreu, hein, qui constitue une création ex nihilo. Il se passe vraiment quelque chose de spécial là-dedans. L'homme et la femme partagent le même statut créaturel, on pourrait dire, la même nature humaine, les mêmes os, la même chair. Mais à l'intérieur de cette égalité absolue en humanité, à l'intérieur de cette égalité, hein, absolue en humanité, il y a une... Je pense qu'il y a une certaine distinction. En tant que vis-à-vis de l'homme, la femme est distincte de lui. Hein, une certaine différenciation sexuée. Une complémentarité qui culmine dans l'institution du mariage. C'est le verset 24 que je vous invite à relire. Hein. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme partagent la même nature humaine, il y a une égalité absolue en humanité, en dignité, et à l'intérieur de cette égalité absolue, il y a une distinction, une différenciation sexuée, une complémentarité qui culmine, à mon avis, dans ce verset, le verset 24. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'ordre dans lequel se font les choses. Est-ce que vous avez vu les deux étapes de la consommation de l'amour dans ce verset? Ce verset résume quasiment toute la théologie du mariage. Est-ce que vous avez vu ces deux étapes? Première étape, quitter. C'est pas moi qui l'invente.